Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale en ce vendredi 30 septembre. Eh, mais attendez, une semaine sur deux. Bah oui, c'est ça. C'est l'heure de la chronique médiathèque avec Ludivine. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors Ludivine, c'est aujourd'hui, c'est rigolo parce que je t'ai amené un bouquin de fantasy,
oui,
et on reste un peu dans la thématique.
Ils sont côte à côte,
ouais.
C'est magnifique.
T'as vu, ils sont là.
Tous les deux
sont...
avec du doré sur la couverture en plus.
Ouais, il est joli aussi le mien, voilà. Mais oui. Le mien est joli, c'est Conan le Cimérien que je recommande à tout le monde. Mais le tien, je vais le découvrir en même temps que les auditeurs parce que c'est de la fantasy, mais pas que, un peu cyberpunk, un peu fantasy.
Ouais,
un peu...
c'est de la fantasy, du moins c'est dans un univers avec fantasy. Et on retrouve des codes du cyberpunk.
Ok. Voilà. Alors ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Les Maîtres en Lumineur.
Ouais.
C'est de Robert Jackson Bennett, paru chez Albin Michel dans la collection Imaginaire. Et c'est un tome 1. Ce sera une trilogie.
Ça va.
Moi j'aime quand on sait déjà qu'il n'y en a pas que 3.
C'est ça.
Ça me fait plaisir.
Et qu'on s'y tient surtout. Hein ?
Et qu'on s'y tient.
Voilà. Remember.
et en fait, le tome 2 est déjà sorti en France. Et le tome 3, logiquement, est déjà sorti. Aux USA.
Ah donc, c'est cool, ça arrive quoi.
On devrait l'avoir rapidement, oui.
Ok. Alors, ça nous parle de quoi, tout ça ?
Ça nous parle de quoi ? Donc, dans Les Maîtres en Lumineur, comme le titre peut le laisser penser, on se trouve dans un univers où il y a toute une forme de magie et toute une économie aussi qui repose sur l'enlumineur. Donc, sur la capacité des 10 maîtres en lumineur à poser des sceaux magiques très précis sur les objets pour les convaincre qu'ils sont plus que ce qu'ils ne sont. Par exemple, vous allez convaincre une épée qu'elle est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lourde que ce qu'elle est normalement.
C'est un peu de l'animisme.
C'est un peu de l'animisme, tout à fait. Et en fait, alors moi, c'est ce qui m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit, purée, si c'est trop complexe, techniquement parlant. C'est des sceaux magiques qui viennent contraindre et modifier les lois de la physique et les lois de la réalité, en fait. Parce que, bien sûr. Mais rassurez-vous, chers lecteurs, si moi, j'ai compris, vous comprendrez aussi. Et donc, ça se passe dans une ville qui s'appelle Tevan, qui est une ville qui ressemble tout à fait à ce que pouvait être la Venise de la Renaissance. Ça va des canaux au nom des personnages jusqu'à l'organisation de la société, puisqu'elle est dominée par des maisons marchandes.
D'accord, ouais.
Voilà, qui dominent littéralement la ville économiquement et qui disposent de la plupart des maîtres en lumineur, d'ailleurs. Leur puissance tant économique que leur pouvoir tout court est fondée là-dessus. Et il y a évidemment, par opposition à ces maisons marchandes qu'on appelle les campos, qui sont hyper sécurisées, hyper propres, hyper riches,
Le quartier cool de Miami, quoi.
Le quartier cool de Miami. Par opposition au quartier cool de Miami, il y a le quartier pas cool de Miami, ce qui s'appelle les communes. En fait, les gens s'efforcent de survivre dans un environnement qui est hyper sale, hyper pauvre, hyper dangereux. Voilà. Et dans cet environnement-là, du coup, évolue le personnage principal, ou du moins un des personnages principaux du roman, qui s'appelle Sansia, qui est une jeune femme qui s'avère être une voleuse. En fait, elle est très douée pour ça.
Elle vient de la banlieue, elle est voleuse.
Elle vient de la banlieue, les clichés.
Oh, les clichés.
Donc, c'est un peu un roman de... C'est un type d'intrigue qu'on retrouve un peu en fantasy, ce roman de cambriolage, tu sais.
Ouais. Mais donc, d'ailleurs, ça me fait penser à la série Arcane.
Oui, tout à fait. Il y a ce côté-là, même dans l'esthétique, un petit peu... Et donc, cette jeune fille très douée pour voler a été chargée de dérober, le roman commence par ça, une petite boîte dans un des ports de la ville.
Et là, on sent le truc arriver.
On sent le truc arriver. Et en fait, il faut savoir un truc sur Sansia, on le sait dès les premières pages, donc ce n'est pas du spoil, je suis anti-spoil. C'est que ce n'est pas une voleuse ordinaire, parce que Sansia a une plaque en métal enluminée dans la tête qui lui donne la capacité de rentrer en empathie avec les objets. C'est-à-dire que du moment qu'elle est en contact physique avec, elle les sent et elle arrive de façon basique à communiquer avec eux. Par exemple, elle met la main sur le sol va lui dire « je suis un sol en bois, je craque, j'ai de la poussière et dans telle pièce, il y a quatre personnes qui marchent sur moi ».
Trop pratique.
Voilà, ce qui est très
pratique
surtout
quand t'es
un voleur.
Et voilà.
Le revers de la médaille, c'est que c'est très 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 encombrant au quotidien. Ça menace même de la rendre folle parce qu'imaginez-vous que n'importe quel objet en contact avec vous vous parle et vous balance des informations.
Donc du coup, elle vit nue.
Jusqu'à ses fringues,
en fait. Non, mais c'est ça, oui, je suis en train de me dire, mais tu mets une nouvelle écharpe, salut.
Voilà, c'est ça. Et pareil, avec toucher les personnes, c'est même pas envisageable. Enfin, voilà, donc, un de ses buts, en fait, en remplissant cette mission, qui est très grassement payée, c'est d'essayer de se faire débarrasser de ce truc, quoi.
Ah, parce qu'elle veut enlever sa plaque, en fait. D'accord.
Voilà,
on sait qui a mis la plaque, ou ça fait partie de l'intrigue ?
Ça fait partie de l'intrigue.
Ah.
Et voilà, et de s'assurer une vie plus tranquille, parce qu'en gros, elle s'efforce de survivre hein, dans les communes. Il n'y a pas trop d'autres moyens de se projeter dans l'avenir. Et donc, ça peut ouvrir d'autres perspectives. Mais quand même, une fois qu'elle a réussi à dérober son petit coffret, ça encore, c'est juste dans les premières pages, elle se dit, c'est quand même étrange qu'on me paie autant pour voler cette petite boîte. Elle va ouvrir la petite boîte, et dans cette boîte, il y a une clé en or, qui est un objet enluminé, sauf que ça ne ressemble à aucun objet enluminé qu'elle a pu voir auparavant. Il y a des sceaux complètement inconnus qui sont gravés dessus. Et surtout, la clé va se mettre à lui parler.
Ok.
Voilà. Mais pas de façon confuse comme les objets habituels, comme une personne en fait.
Ah d'accord, oui, comme c'est... Wesh, voilà, ça va, voilà. Qu'est-ce que tu fais?
Exactement.
Il était pénible ce coffret
c'est
là.
C'est à peu près ça. Un moment, voilà, je suis dans le
comme un génie dans une bouteille. Quoi,
voilà, on a une conversation. Mmh. Et donc évidemment, ça va l'entraîner dans plein de choses à la fois, puisque ça va relever d'un mystère lié aux enluminures, mais elle va aussi se retrouver plongée dans les intrigues des maisons marchandes. Et donc, ça va mettre sa sécurité en péril et elle va devoir trouver des alliés pour essayer de s'en tirer. Voilà, ça, c'est l'intrigue de base.
Là, encore cette histoire de quelqu'un de... C'est, ils font ça souvent, les puissants. Hein. Ils prennent quelqu'un qui n'est pas grand-chose, mais qui a un petit talent.
Ouais.
Ils se disent, on va l'envoyer dans ce truc-là, personne ne va y faire gaffe, et puis on va être peinard. Et là, c'est la cata.
C'est ça. Mais clairement, on est dans des... Alors, au niveau du scénario, clairement, dans des choses assez classiques... La voleuse des rues qui vole un objet qu'elle n'aurait pas dû voler, qui va être confrontée aux puissants, etc. Ce qui est original, c'est tout cet univers qui tourne autour de l'enluminure et de la technique de l'enluminure, en fait, cette forme de magie particulière qui est assez bien expliquée. Ça se lit hyper bien, franchement, on tourne les pages, on a envie de voir la suite, c'est cool, c'est prenant. Les personnages sont assez attachants.
Je me souviens d'un terme anglais, je crois qu'on appelle ça un page-turner.
Un page-turner, exactement. Il a été caractérisé comme tel d'ailleurs, et c'est vrai, parce que ça se lit vraiment bien. Les personnages sont attachants, ça c'est cool, parce que le revers, des fois je trouve qu'avec les page-turners justement, c'est qu'on n'a pas trop de temps pour s'attacher aux personnages, ou que ça reste juste des archétypes, et bon, là c'est pas le cas, ils sont chouettes. Et ce qui est intéressant aussi, mais c'est ce dont on parlait hors scène, c'est qu'en fait, de par l'environnement qui fait très renaissance dans les codes esthétiques, etc., et ce côté quête aussi, finalement, voler un objet, se trouver des alliés, etc. On est plutôt dans la fantasy, mais avec des codes qui sont vraiment empruntés au cyberpunk. Parce que déjà, l'enluminure, on ne va pas se mentir, ça ressemble un petit peu...
au circuit imprimé, en fait.
Voilà, puis il y a des codes informatiques, tout simplement.
Ah oui, d'accord,
ok. Tu poses tel code sur un objet pour qu'il fasse telle action.
Ok. Ah oui, c'est pas juste je transfère mon.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, il y a quand même une technique.
Oui, il y a une technique hyper. Si tu te plantes, ça se passe pas bien pour toi, quoi. Donc c'est vraiment une forme de magie hyper précise.
Mais comme l'on. Mais d'accord. En fait, c'est une espèce de cyberpunk steam.
Ouais, ça serait. S'il y avait pas en fait vraiment l'environnement, ce serait même limite du steampunk parce que ça passe hyper importante de l'industrie de la technologie. Et ça me tient, en fait, ça se rapproche d'une hackeuse, finalement, quoi. Il y a, il y a des choses qui se rapprochent du hack. On est dans ce côté aussi du pouvoir économique, parce que dans le cyberpunk, c'est plus les multinationales.
Oui,
là, t'as
ça,
un marginal qui se retrouve à affronter ce type de pouvoir-là. Le côté très noir aussi, très pessimiste, où t'es dans une société avide financièrement. Et... Enfin, voilà, il y a des codes comme ça qui se retrouvent. Et en fait, j'ai lu quelque part sur Internet qu'à la base, ils voulaient faire un univers mais plutôt futuriste, avec une nana qui aurait une puce dans la tête.
D'accord.
Et ça reposerait plus sur l'informatique. En fait, du coup, l'originalité tient au fait que maintenant, on se transposait dans un univers qui fait Italie de la Renaissance et avec des techniques d'enluminure. Ce qui fait son originalité, selon moi. Mais les gens qui aiment bien le cyberpunk pourront y trouver des choses qui leur appellent et qui leur...
Je trouve ça hyper sympa comme concept, en fait.
Mais le concept est cool, ouais. Par exemple, moi, qui ne serais pas forcément allé lire du cyberpunk, parce que
t'es plus la fantasy,
SF, c'est moins mon truc que la fantasy, ben ça m'a fait...
Du coup, c'est une passerelle.
Ouais, c'est une passerelle, carrément. Donc, il y a ce petit côté qui le rend un peu... à la rencontre de deux genres et qui le rend plus original qu'il n'aurait pu être s'il n'avait été que l'un ou que l'autre, en fait.
D'accord. Et donc, ça s'appelle... Alors, rappelle-nous le titre,
Les Maîtres en Lumineur.
Les Maîtres en Lumineur.
C'est un tome 1.
Le tome 1. Le tome 2 est sorti en France. Le tome 3 arrive bientôt. Donc,
oui.
On peut même se faire la saga assez rapidement.
On peut se faire la saga assez rapidement, a priori.
À la fin, on a envie de se jeter sur le tome 2.
On a envie de connaître la suite, mais ça ne laisse pas non plus dans une horrible frustration.
Façon, mon Dieu, il est mort. Mon Dieu,
voilà,
elle n'est pas morte.
Il y a quand même des choses. Tu as envie de
Remember,
savoir. Voilà. Décidément, nous sommes traumatisés.
Ouais.
Y a des choses qui doivent encore être racontées et des choses vont prendre en envergure, etc. Donc, ça justifie une suite. Mais voilà, tu n'as pas de frustration du cliffhanger.
D'accord,
à
ok.
La fin.
Ouais. Bon, bah, un bouquin très, très bienveillant, très sympa, alors, du coup, avec le lecteur.
Voilà.
Ok. Eh ben, je te remercie pour cette proposition.
Bah, avec plaisir.
Et j'ai mon écran qui s'est éteint, mais c'est bon, ça continue d'enregistrer.
C'est merveilleux.
Et on se retrouve donc dans 2 semaines, enfin on retrouve Christian dans 2 semaines, qui nous présentera sans doute une série sur une histoire d'amour en Écosse avec un vaisseau spatial et du voyage dans le temps. Non, je sais pas.
Moi très sérieusement, c'est ce qui est prévu.
Ça marche. Allez, vous écoutez toujours la matinale. Et il faut que j'arrête de dire « Allez, vous écoutez toujours la matinale ». Vous écoutez toujours la matinale, la suite en musique. À très vite.